Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, bonsoir Théo, bonsoir Nathalie, qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Vous avez vu après l'orage, ce beau soleil de toute la journée, là, on a échappé belle hein, à pas mal de choses cette semaine, ouais. Je trouve, hein. Enfin ce week-end. Eh bien moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ben on va commencer par, alors j'espère que vous aviez trouvé ce que nos énigmes, mais si vous n'aviez pas trouvé, c'est pas grave, la réponse vous l'avez eu vendredi. Donc on va commencer par les ingrédients des verrines de betterave et au boursin. Je vous expliquerai que vous pourrez faire autre chose qu'avec du boursin. Vous verrez, vous pouvez changer plein de choses. Pour cela, donc, on a besoin du persil, de la ciboulette, juste pour la déco. 400 g de betterave cuite, 150 g de boursin. Pour les ustensiles, il faudra un écrase-purée ou une fourchette, ou encore un blender, ça c'est vous qui voyez. Un saladier, 4 à 6 verrines, tout dépend de la grosseur de vos verrines bien sûr. Et puis un couteau. Pour les escalopes de poulet, donc c'est des escalopes panées. Et le tian de légumes, c'est de saison. Vous aurez besoin de 4 cuillères à soupe de farine, une petite cuillère à soupe de paprika, 4 escalopes de poulet, ou des blancs de poulet, comme vous voulez, hein, on avait mis le choix. 4 cuillères à café à soupe de chapelure, 2 œufs. Pour les ustensiles, il vous faudra... Ah, non, je me suis arrêtée en cours de route, parce que là, je me suis arrêtée à l'escalope. Donc, pour le tian de légumes, il nous faudra... un oignon moyen coupé en rondelles, 2 tomates coupées en rondelles, 2 pommes de terre coupées en rondelles, une courgette de moyenne, hein, normale, 2 coupées en rondelles aussi, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de gruyère, ça c'est pour les gourmands, moi perso j'en mets pas, mais on verra ce qu'on fera, si on en met ou pas dans la recette, comme vous voulez. Et puis du poivre, du sel bien évidemment, et 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Pour les ustensiles, on aura besoin de 2 assiettes creuses, une assiette plate, un couteau, une poêle, un plat gratin, de l'essuie-tout, un couteau ou une mandoline, donc attention les doigts, un économe et un autre plat à gratin. Et puis pour finir, on finira ce repas avec des îles flottantes qui sont aussi, on appelle ça des œufs à la neige. Hein, vous verrez dans notre histoire ce que l'on va vous raconter sur ces œufs à la neige, îles flottantes. Et il nous faudra donc 60 centilitres de lait, une gousse d'ail.
Non, de vanille. Parce que
une
là,
gousse d'ail, non, non.
Ça peut être très bon.
Oh la vache, oui. Alors, on change, en fin de compte, c'est des îles flottantes à l'ail. Mmh. Ouh. Donc, c'est une gousse de vanille. Je suis vraiment dans la cuisine et je suis tellement pressée de vous faire goûter tout ça que, en fin de compte, je mélange les pinceaux. Je suis désolée. Donc, je reprends. Donc, 60 centilitres de lait, une gousse de vanille. 30 g d'amandes effilées, 110 g de sucre en poudre, un demi jus de citron, hein, c'est pas un demi citron, c'est un demi jus de citron, une pincée de sel, 4 œufs et 60 g de sucre en morceaux. Pour les ustensiles, vous aurez besoin de 2 casseroles, une poêle, une cuillère en bois, un chinois. Alors, ce n'est pas le monsieur hein, qu'on demande, c'est le chinois. C'est une petite passoire avec un filet très, très fin. Voilà, c'est ça un chinois. Et ça a la forme d'un chapeau chinois, c'est pour ça qu'on l'appelle chinois. Voilà, pour l'information. Et puis, 4 à 6 jolis bols ou ramequins ou grands ramequins. Ça, c'est suivant ce que vous avez à la maison. Vous pouvez aussi les mettre dans des verres si vos verres sont jolis. Enfin, trouvez toutes des astuces de déco, ça peut être sympa. Voilà, écoutez, nous, on va commencer par le dessert, donc c'est-à-dire par les îles flottantes. Alors pour cela, on va dans une casserole, on va faire bouillir les 60 centilitres de lait avec la gousse d'ail, la gousse de vanille. Non, je veux absolument que ce soit de l'ail. Bon, la gousse de vanille et que vous allez fendre dans le sens de la longueur et que vous allez préalablement gratter les grains et les mettre dans le lait. Donc ça, c'est important de le faire et vous laissez la gousse de vanille dans le lait. Elle va vraiment, il faut qu'elle infuse un maximum, je dirais jusqu'à refroidissement, jusqu'à 5 minutes, voilà. 5 minutes déjà, c'est pas mal, mais de gratter bien cette gousse de vanille, c'est important de récupérer tous ces petits grains qu'il va y avoir à l'intérieur de cette gousse et que vous allez pouvoir mélanger au lait. Donc pendant ce temps-là, Nathalie, tu as mis 5 minutes pour... ça va être vite passé, 5
ouais,
minutes.
On va mettre 5 minutes.
On va mettre 5 minutes, ça va être bien. Pendant ce temps-là, on va séparer les jaunes d'œufs et puis on va les battre avec 80 g de sucre. Et puis, on va réserver. Donc, les jaunes d'œufs, on va les blanchir hein, comme on fait d'habitude. Donc, il faut que votre mélange soit jaune pastel, on va dire. Hein, donc force et courage, comme je dis toujours. Donc vous fouettez avec un fouet les jaunes d'œufs et puis les 80 g de sucre. Et puis les blancs d'œufs, eh ben, on va les monter en neige et avec une pincée de sel. Et on va ajouter doucement les 30 g de sucre. Voilà, donc on va séparer un petit peu les œufs. Et puis 80 g avec les jaunes d'œufs. Et puis on mélange bien, on fouette bien. Et on monte les blancs en neige et pendant un petit moment. Donc ben, écoutez, moi je vous propose pendant que vous montiez les blancs en neige, ben de faire une pause musicale. Comme ça, on vous accompagne à monter les œufs.
Choqué, on va aller chez Couchy-Couille, bon chica, chica comme d'hab. Choqué, on va aller chez Couchy-Couille, bon
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici. Donc là, je pense que vos blancs sont montés en neige et que votre préparation de sucre et de jaune d'œuf est prête, bien blanchie. Hein, et votre vanille est en train d'infuser dans le lait. Nathalie, tu peux nous dire un petit peu. Je pense que là, ça devrait être
dans
pas trop mal.
Secondes, ouais, ouais,
ouais,
là,
dans 10 secondes.
Bon, ouais.
Eh bien, dans ces cas-là, on a juste le temps dans 10 secondes de prendre une grande casserole et de faire chauffer de l'eau, 2 litres d'eau, puisqu'on va pocher les blancs en neige. Pendant que l'eau est elle bout, alors on enlève la vanille avec une fourchette, hein, parce que ça doit être un petit peu chaud. Donc on enlève la vanille pour... oui, du lait, c'est mieux. Et puis, on va y rajouter des œufs, les œufs, la préparation d'œufs et de sucre que vous avez mis dans un saladier, que vous avez fouetté. Alors, moi, ce que j'aime bien faire dans cette préparation-là, c'est que avant de mettre les œufs, de mettre les œufs et le sucre directement avec une spatule dans le lait chaud, je verse le lait chaud dans un petit peu, hein, vous mettez la moitié, on va dire la moitié, dans la préparation. Donc, c'est-à-dire que le lait chaud, vous le versez de moitié sur les jaunes et les œufs. Vous remuez bien avec un fouet, vous remuez bien. Et après, vous remettez ce que vous avez mis, donc le lait, les œufs et le sucre, dans la casserole. Et là, à feu doux, et vraiment à feu très doux, vous allez laisser l'épaissir. Donc, vous fouettez tout le temps, hein, vous remuez. Mieux avec une cuillère en bois, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est pour éviter que ça accroche. Donc, la crème anglaise, c'est super important. Il ne faut pas qu'elle brûle au fond. Donc, on va remuer tout le temps sans faire bouillir. Donc, c'est pour ça que le feu doit être très doux. Et puis, la crème, lorsqu'elle est prise, en fin de compte, on voit parce qu'il n'y a plus de mousse. Vous avez de la mousse qui est faite par le fouet au départ. Et puis, quand vous n'avez plus de mousse, c'est qu'elle commence à être prise. Alors, j'ai une astuce, moi, pour savoir si elle est prise. Donc, il y a l'histoire de la mousse. Donc, si la mousse en surface disparaît, c'est que votre crème est prête. Une autre astuce pour savoir si votre crème est prise, vous sortez donc la cuillère en bois encore nappée de la préparation que vous êtes en train de cuire, et puis vous passez votre doigt dans le sens de la longueur. Votre préparation qui est nappée, donc nappe la cuillère du haut, ne doit pas couler. Si elle coule, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. Donc, du coup, vous la faites réchauffer. Voilà. Et ça, c'est imparable. Une crème anglaise, moi, chaque fois que je fais une crème anglaise, je passe mon doigt sur la cuillère en bois dans le sens de la longueur. Si le haut de la cuillère retombe, c'est qu'elle n'est pas prise.
Oui, c'est ce que je fais aussi.
Voilà. Donc, ça, c'est une astuce, je ne sais pas d'où, mais moi, dans mes études...
Moi, c'est ma mère qui m'a appris ça. Donc
moi,
ça
c'était dans mes études.
Voilà.
Voilà. Oui. Donc, la crème anglaise, là, on va dire qu'elle est prête. D'où vient le chinois. Donc vous passez au chinois, donc surtout vous mettez un récipient sous le chinois et vous passez cette crème anglaise au chinois. Alors pourquoi je la fais passer au chinois ? Parce qu'il se peut que vous ayez des petites coquilles d'œufs, des petits résidus. Il faut vraiment que cette crème, elle soit bien onctueuse et bien lisse. Donc le chinois, il va enlever toutes les petites imperfections qu'il peut y avoir et puis éventuellement des grumeaux qui se sont formés. Voilà, donc, et après, vous mettez ça au frigo. Voilà, tout simplement, vous la laissez bien refroidir d'abord, et après, vous la mettez au frigo une fois que c'est bien refroidi. Voilà, je pense que l'eau, elle a bouilli au niveau de nos 2 litres d'eau qu'on avait mis à bouillir, donc ça va, normalement, ça va relativement très vite. Eh bien, on va pocher nos blancs d'œufs maintenant. Donc, pour ça, on forme une boule. Alors, vous pouvez prendre 2 cuillères et former une petite boule ou une petite quenelle de blancs d'œufs. Il ne faut pas trop les remuer. Ou alors, vous prenez, encore une astuce, moi j'aime bien les astuces, vous prenez une cuillère à glace, tout simplement.
Ça fait une petite boule, du coup.
Oui, ouais. Mais vous pouvez en faire plusieurs petites boules.
D'accord.
Et alors, automatiquement, le pochage se fera en très vite. Donc, l'idée, c'est de les pocher et de les faire. Vous comptez une minute pour les pocher. Donc, on les plonge, on compte une minute et puis on va les mettre sur les papiers absorbants. Comme D'accord. ça va être égoutté. Voilà, donc toujours très délicatement, vous pouvez vous faire aider d'un écumoir pour les faire rouler dans l'eau bouillante. Votre eau bouillante, vous arrêtez l'eau. Vous la laissez pas bouillir tout le temps. Donc vous arrêtez l'eau, vous faites vos petites boules et vous les mettez au fur et à mesure et vous allez voir, ça va se pocher, ça va durcir au fur et à mesure. Alors il y en a qui le font au micro-ondes, moi je suis pas fan.
Voilà. Je ne connaissais pas au micro-ondes.
Voilà, vous pouvez le faire au micro-ondes, moi je ne suis pas fan. Voilà, écoutez, pendant que vous faites ça, et puis pendant ce temps-là, vous pouvez aussi en même temps faire dorer au four 5-10 minutes vos amandes. Alors, ou au four, ou moi j'aime bien à la poêle. Donc un petit peu à la poêle, on met les amandes dans la poêle, on parsème la poêle, on retourne légèrement et vous allez voir à sec.
Ouais.
Ah oui, on met pas de gras du tout. Et puis vous allez voir, ça va vite griller. Et dans ces cas-là, quand c'est grillé à votre convenance, vous les mettez dans une assiette à refroidir et vous avez vos amandes qui sont grillées, poêlées. On peut le mettre au four, mais c'est plus long et c'est de l'électricité supplémentaire.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Donc à la poêle, ça peut être très bien. Et puis vous affolez pas si les amandes effilées elles sont un peu cassées. Et de toute manière, on les émiettera au moment de les mettre sur les jaunes. Donc ça, les blancs d'œufs. Donc ça, je vous expliquerai après par la suite. Je pense qu'on a une pause musicale qui nous attend. Donc
non, publicitaire. Je crois.
Publicitaire.
Ouais.
Et allons-y pour la pub, Théo.
Vous cherchez une idée de sortie originale en famille ? Parc Babyland à Miland, 34 attractions. Petits et grands pourront faire le plein de sensations au Parc Babyland à Miland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Je veux parler tout bas.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, donc je pense que vous êtes en train de pocher vos blancs, vos amandes, elles sont grillées, ça c'est un fait. Donc pour vous laisser un petit peu de temps pour pocher ces blancs en neige, parce que ça met quand même un petit peu de temps, surtout si vous avez fait tous les blancs en neige. Voilà, je pense que Nathalie, tu as peut-être quelque chose à nous raconter sur cette fameuse île flottante.
Ouais, je vais essayer de vous raconter l'histoire des îles flottantes. Donc les îles flottantes ou les œufs en neige, parce qu'on dit la même chose, sont un entremets ou un dessert de la cuisine française, c'est français, composé donc de blancs d'œufs sucrés, fouettés, pochés ou cuits au bain-marie. C'est en général accompagné d'une crème anglaise, c'est ce qu'on fait ce soir, et généralement nappé de caramel. Ils sont aussi appelés îles flottantes, bien qu'au 19e siècle et au 20e siècle, cette expression ait désigné d'autres desserts, dont le point commun est d'être constitué d'une préparation solide, posé sur un lit de crème ou de gelée. Alors, île flottante. Selon le trésor de la langue française, l'expression île flottante désigne en géographie un agglomérat de végétaux recouverts de terre que l'on rencontre le plus souvent sur les fleuves ou pouvant atteindre des dimensions suffisantes pour être peuplées. En 1886, dans le journal Gil Blas, la recette d'un entremets appelé île flottante est détaillée dans une rubrique culinaire signée Vatel Cadet. Il s'agit de pommes cuites réduites en purée sucrée incorporées à des blancs d'œufs battus, parfumées à l'eau de rose ou de fleur d'oranger. La mousse obtenue est dressée sur une gelée ou une crème renversée. Dans les années 1890, plusieurs sources présentent cette même recette, parfois comme étant celle d'un entremets anglais. S'agissant des œufs en neige, on trouve l'expression mentionnée en 1890 aussi dans un ouvrage intitulé « Ma cuisine ». Une certaine Madame Le Brasseur propose de rajeunir ce plat un peu vieux style en mettant les blancs battus dans un moule caramélé. Ils y cuisent 7 ou 8 minutes au bain-marie et l'on verse cette île flottante sur la crème à la vanille contenue dans la jatte ou dans le compotier. En 1903, Auguste Escoffier publie dans son guide culinaire une recette d'une île flottante très différente, précédée de la mention « cuisine anglaise ». Donc biscuits de Savoie rassis, détaillés en tranches minces, imbibés de kirsch et de marasquin, puis masqués de confiture d'abricot et parsemés de raisins de Corinthe et d'amandes hachées. Rapportez les tranches pour reformer le biscuit et masquez celui-ci tout autour de crème fouettée sucrée vanillée. Semez la surface de la crème de pistache effilée et de grains de Corinthe. Dressez sur compotier et entourez de crème anglaise vanillée ou de sirop de framboise. L'entremets se consomme froid et il n'a rien à voir du tout avec l'île flottante. Hein.
Non, on connaît. Mais il l'a appelé comme ça.
Oui.
Voilà, donc et comme c'est Escoffier,
Respect.
Voilà, respect. Respect, tout à fait. Moi, j'étais à l'école avec un Escoffier.
C'est vrai?
Oui.
Le arrière-arrière
je ne sais pas, mais j'ai. Voilà, c'est mon prof de cuisine, c'était un monsieur Escoffier.
Mais est-ce qu'il venait vraiment et c'était un aïeul? Enfin, c'est...
Il semblerait que si, parce qu'il a écrit un bouquin et voilà. D'accord. Et moi, j'ai une signature sur le livre qu'il m'a offert quand j'ai eu mon CAP. Attention. Voilà, donc c'était pour une petite anecdote. Vous voyez que, en fin de compte, les îles flottantes, on peut faire. Alors, moi, j'ai décidé de les mettre en ramequin, mais vous pouvez les mettre dans un grand saladier.
Oui.
Verser tout simplement la crème anglaise dans le saladier et puis pocher entièrement vos œufs, peu importe la forme qu'ils auront. Et puis, une fois que c'est posé, vous mettez bien sur papier absorbant parce que il faut que l'eau s'évapore. Et après, vous le transférez. Mais ça peut être en vrac comme on veut. C'est des îles. Donc, les îles, elles ne sont jamais bien rondes.
Bah, bien sûr.
Après, c'est à vous de voir et ayez de l'imagination. Que diable. Voilà. Ben écoute, merci Nathalie pour tout ça. Donc je pense que on monte pas tout de suite les blancs, hein. On les laisse tranquillement, on va les mettre au frais. Pas sur le papier, pas sur le papier absorbant. Hein. Donc le mieux, c'est d'enlever le papier absorbant et de les mettre au frais sur une assiette. Et puis la crème anglaise, c'est pareil. On la met au frais. Tout ça, c'est au frais en attendant le montage qu'on fera un petit peu plus tard. Nous allons continuer par le tian de légumes parce qu'il y a une belle cuisson à faire. Alors c'est des recettes qui sont faciles, mais il y a quand même un temps de préparation, surtout pour le tian. Le tian de légumes, on va déjà prendre un plat à gratin. Et puis le huiler, ça c'est important, c'est pour éviter que tous les légumes que l'on va mettre à l'intérieur ne soient accrochés. Et puis on va couper finement avec ou au couteau ou à la mandoline l'oignon, la pomme de terre, la courgette. Et alors pour les plus doués, la tomate pour la mandoline, mais attention, ça coupe.
Il faut qu'elle soit bien aiguisée, la mandoline.
Hein. Oui. Mais une mandoline, normalement, si vous voulez avoir quelque chose de fin et d'assez sympa, alors là, pour le fait, ça va être 5 mm. Mais il faut savoir que le tian, plus vous ferez fin, alors c'est pas une feuille de papier hein, qu'il faut faire, mais plus ça sera fin, donc moins de temps ça cuira.
Oui, d'accord.
D'accord. Donc, vous avez quand même les pommes de terre. Donc, les pommes de terre, il faut quand même qu'elles soient fines. Donc, 5 mm, c'est bien. C'est bien. Au-delà, ça risque de prendre un peu plus de temps au niveau de la cuisson. Alors, les courgettes seront cuites, parce que ça, c'est quelque chose qui se cuit rapidement. Les oignons aussi, les tomates aussi, puisqu'elles vont apporter du jus à cette préparation. Mais les pommes de terre, si vous les faites trop grosses, et puis déjà dans le plat vous aurez du mal à la mettre en espèce de serpent. Moi je mets ça en petit serpent et voilà, en serpent. Donc comme si vous faisiez une tarte aux pommes. Et par contre on va mettre une couche. Voilà. Alors ou on peut le faire à l'horizontale, moi j'aime bien le faire à la verticale. Voilà, droit.
D'accord.
Et en arc de cercle et en serpent, donc en torsade. Voilà.
D'accord.
Hein, je pense que j'ai du mal à vous exprimer mes visions.
Oui, parce qu'un plat à gratin, c'est rectangulaire en général.
Ouais, mais non. Moi, j'ai des plats à gratin qui sont ronds.
Ah, d'accord. Voilà. Ok.
Je suis désolée.
Donc, si vous avez un plat à gratin rond, c'est mieux, du coup, pour faire le...
Alors, si, on va partir du principe qu'il est carré. Voilà. Comme ça, au moins, il est rectangle. Ça embêtera pas Nathalie, comme ça, parce que je vois que ça la perturbe.
Parce que j'ai pas de plat à gratin.
Voilà. Donc, et comme elle va faire la recette cette semaine, oui. Et qu'elle va nous la ramener la semaine prochaine pour qu'on y goûte. Donc... On va disposer, donc alors là, à la verticale, on est bien d'accord, on met une tranche d'oignon, une tranche de tomate, une tranche de courgette, une tranche de pomme de terre, et puis on renouvelle la même opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Donc c'est ça qui est le plus long, c'est de mettre toutes ces rondelles côte à côte. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, on va recouvrir le tout de 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors, moi, j'ai mis de la épaisse. Si jamais vous n'avez pas de la épaisse et vous avez de la liquide, vous pouvez prendre de la liquide.
Hein?
Donc, n'hésitez pas, plus il y a de la crème fraîche, meilleur c'est, on va dire. Mais au niveau de votre balance, elle ne va pas forcément aimer. Et puis, vous mettrez bien une pincée de sel, une pincée de poivre et pour finir le tout avec un petit filet d'huile. Et puis on ajoutera évidemment pour les gourmands, vous rajouterez le fromage râpé. Moi franchement je ne mets pas de fromage râpé, je vous donne une petite astuce, vous pouvez rajouter un petit peu d'origan dessus,
ouais.
Des herbes de Provence.
C'est ce que j'allais dire, avec des
herbes
de Provence,
ça peut être sympa aussi. Voilà, donc, et ça, on enfournera à 180 degrés et pendant Donc le thermostat à 6, bien évidemment, et pendant 30 à 45 minutes. Donc là, c'est tout dépend de la grosseur de vos, des massages de vos légumes. Donc voilà, ben, et puis ben, nous on va considérer que c'est parti, que vous avez déjà tout fait, et puis pendant que ça cuit gentiment, on va mettre 30 minutes. Mm-hmm. Et puis pendant ce temps-là, Nathalie, tu peux peut-être nous dire ce que tu as sur le tian de légumes.
Mais oui, le tian. Alors, tian, ça vient de l'occitan. C'est issu du grec ancien téganon, qui veut dire poil ou plat ou écuelle ou terrine ou tagine. Donc, ça désigne un plat de cuisson et de service large et peu profond. En terre cuite vernissée de la cuisine traditionnelle provençale. Donc, si vous allez en vacances en Provence, ramenez un plat à tian, du coup. Ce sera plus simple pour le faire après. Ça fera plus local.
Donc, tu vois que c'est un plat en terre cuite.
Oui.
Donc, j'ai moi ça.
Alors, moi, j'en ai un, mais ovale, du coup.
Oui, ça mais tu peux le faire
je
aussi.
Je peux le faire.
Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ça te rassure, là, ça va?
Oui, parce que du coup, je visualise que j'en ai un ovale. du coup, il désigne aussi et son contenu une spécialité culinaire traditionnelle d'origine comtadine, présente dans la cuisine comtadine ou vauclusienne. Donc c'est la cuisine provençale, la cuisine de la Provence méditerranéenne, la cuisine occitane, la cuisine niçoise et plus généralement dans le régime méditerranéen. Ce plat, c'est un ragoût en gratin, cuit au four, comprenant toutes sortes de légumes, donc de viande, de poisson, d'œufs, de fromage et de plantes aromatiques comme l'origan et l'huile d'olive. À l'image des gratins, des tagines de la cuisine du Maghreb et du boekofe de la cuisine alsacienne, parce que je ne suis pas alsacienne, cette recette culinaire qui nécessite une cuisson lente est réalisée à l'origine à base de légumes cuits au four, c'est ce qu'on fait. Au Moyen-Âge, le plat est cuit dans le four banal, droit seigneurial, puis au four communal, puis au four à pain des fermes agricoles et des boulangeries jusqu'au milieu du XXe siècle. Au cours du XVIIIe siècle, il est considéré comme un ragoût maigre populaire. Les variantes, il y a des cassoles, les daubières et autres tagines. L'ustensile est à l'origine un plat peu profond, à rebord épais, en forme de tronc de cône. Alors, il faudra m'expliquer ce qu'est le tronc de cône. Pour être posé sans verser à table ou directement par terre, il servait de bassine à tout faire, laver ou stocker des légumes, etc. La terre cuite d'origine à ce jour vernissée est capable de supporter la cuisson longue au four après la cuisson du pain.
Donc, c'est un plat qui rassemble. Oui. Si on lit l'histoire, si on comprend l'histoire, c'est un plat qui rassemble. Alors, vous avez vu que on pouvait mettre de la viande, du poisson. Alors c'est toujours la même chose, c'est que votre viande ou votre poisson, vous l'intercalez avec vos légumes, tout simplement.
C'est ça.
Bon, les œufs, ça va être compliqué, mais pourquoi pas mettre un œuf dessus s'il va gratiner.
Exactement.
Sauf que l'œuf qui va cuire 30 minutes,
non.
À mon avis...
Je pense qu'il faut le mettre dans les 10 dernières minutes, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Moi perso, je fais le tian de légumes parce que je trouve ça, mais que du légume.
Oui.
Mais j'ai jamais fait poisson, voilà, j'ai jamais fait, je l'avoue, mais à coup, hein, avec de la viande et du poisson. Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais mettez des herbes aromatiques, bah, je trouve que ça donne un coup de vous voyez ? Ce qu'on entend dans
des cigales.
Voilà, donc ça remet un petit peu de soleil.
Ouais.
Je trouve que c'est bien. Bah, écoute, merci Nathalie pour cette belle histoire et je vous propose une belle musique pour tout de suite.
The pain you caused cut so deep, truly was a
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici. Alors, pour résumer, pour ceux qui nous rejoignent ou faire juste un petit point, on a nos îles flottantes qui sont encore au frais. Notre tian, il est dans le four. Eh bien, nous allons poursuivre avec les escalopes panées. Alors, la panurge, hein, je vous explique comment faire, mais depuis un certain temps qu'on fait des émissions, vous avez vu que moi, j'aime bien utiliser la chapelure pour plein de choses. On a souvent du pain dur ou de la brioche qui durcit et puis qu'on jette parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et ben, gardez-la surtout et puis vous en faites de la chapelure et après vous pouvez paner ce que vous voulez. Voilà, ce que vous avez envie. Là, pour le fait, on va prendre donc nos escalopes de poulet. Donc, j'espère qu'elles sont un peu fines, que ça sera plus facile pour les cuire. On va les mettre donc dans une assiette. Et puis, si c'est un peu épais parce que vous avez pris des blancs de poulet qui sont un peu gros, dans ces cas-là, vous les coupez en deux et puis vous panez les deux. Et puis, on va battre dans une assiette creuse, on va battre deux œufs et on va y rajouter deux cuillères à soupe de paprika. Juste pour donner un petit peu de goût, un petit peu de goût de fumée, d'exotisme. Donc, le paprika va l'apporter aux œufs sans que ça soit trop fort. Et puis dans une autre assiette creuse, on va mélanger 4 cuillères à café à soupe de chapelure. Donc la chapelure avec du pain dur, si vous n'avez pas et que vous l'avez acheté, ben, ça marche aussi bien. Et puis 4 cuillères à soupe de farine. Et puis on va saler cette farine et cette chapelure. Et puis, on va commencer à faire cuire un peu, chauffer l'huile de façon à pouvoir faire la cuisson de ces escalopes. Donc, vous mélangez dans la poêle un petit peu d'huile et vous mettez une grosse noisette de beurre. Moi, j'aime bien mélanger les deux. Comme ça, on a le petit gratiné de beurre et puis l'huile d'olive qui se mélange en même temps et ça accroche pas du tout. Après, si vous avez des vieilles casseroles, des vieilles poêles, ça, c'est tant pis pour vous. Hein. Faut les changer parce que les téfales n'ont pas beaucoup de temps de vie. Hein, parce que le téfal, ça s'use.
Ah ouais.
Oui. Et quand vous avez des rayures dans votre téfal, c'est pas bon d'utiliser une poêle. Faut les changer. Donc voilà.
C'est nocif même.
Exactement. Donc, comme d'habitude, on va tremper nos escalopes une fois dans l'œuf, le paprika, puis dans la farine et la chapelure. Et ça, moi, je le fais deux fois. Donc, en fin de compte, on fait une fois œuf, paprika, chapelure, farine. Et on recommence œuf, paprika, chapelure, farine. Et là, vous allez les cuire 5 minutes de chaque côté.
Ça suffit 5 minutes.
5 minutes, si c'est assez...
Ça fait vif.
Si, oui, à feu... Je dirais que alors quand on dit feu vif, faire attention à votre feu.
Après, ça dépend si on est au gaz, c'est différent la cuisson aussi.
Voilà,
suivant,
donc
si on est au gaz ou plaque.
Vous regardez, faut que ça grille, mais faut pas que ça soit très 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 cramé quoi. Donc 5 minutes. Voilà, faites des allers-retours régulièrement, vous verrez que ça sera plus moelleux et ça le restera. Donc pendant que vous faites un petit peu ça, je pense que Nathalie, tu as peut-être quelque chose à nous dire justement sur les escalopes panées.
Alors, l'escalope panée ou escalope milanaise, la fameuse qu'on mange quand on va à l'italien, enfin pour ma part en tout cas, Cotoletta la milanesa en langue lombarde, parce que je parle la langue lombarde.
Oui, oui, tu as plusieurs langues à ta...
Avec mon super accent.
Oui, oui.
Ou Cotoletta à la milanese est une escalope panée de viande et une variété de Cotoletta, pas traditionnellement prise dans le faux filet. Historiquement, on la cuit avec du beurre. Elle est généralement donc servie avec la salade ou des frites et accompagnée de mayonnaise. On y ajoute un filet de jus de citron. En raison de sa forme, elle est souvent appelée Oreggia d'elefante en milanais ou Oreggia d'elefante en italien, ce qui signifie oreille d'éléphant. En Italie, ce mets ne se sert pas avec des pâtes. Ah tiens, à Milan, le plat remonte au moins à 1134, où il est mentionné lors d'un banquet pour le chanoine de la basilique Saint-Ambroise. D'autres preuves remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ, et non, c'est pas hier, hein, environ, indiquant que les Romains appréciaient les plats de viande en fines tranches, panées et frites. Ce plat ressemble au Wiener Schnitzel préparé en Autriche vers le 19e siècle.
Ben merci Nathalie, parce que là tu nous as fait voyager quand même un petit peu. Hein.
Oui.
Entre l'Italie, on est parti en Autriche, l'Italie, l'Autriche, il y a quand même des kilomètres quand même.
Exactement.
Hein. Mais voilà, alors on peut aussi la panurge, le fish and chips aussi.
Ah oui,
donc
exact.
Tu peux paner dans la même façon du poisson, un filet de poisson, exactement la même chose, et ça ferait un fish and chips.
Voilà. Exact.
Hein, ouais. Donc le fish and chips, c'est une spécialité anglaise. Donc vous voyez, c'est pas. On en fera peut-être un jour. Voilà, moi je suis pas fan parce que c'est vachement gras.
J'en ai jamais mangé.
Mais tu as jamais mangé un fish and chips en anglais?
Non,
en Angleterre.
Je trouve ça trop gras, justement.
Eh bien, c'est super gras.
Ouais.
C'est super gras. Bon, c'est pas le terme, le sujet de l'émission. On va revenir à nos escalopes. Donc, je pense que vos escalopes, elles sont cuites ou à peu près. Si c'est pas encore fait, ben, vous avez le temps de les faire tranquillement. Quand elles sont cuites, donc au bout de 5 minutes de chaque côté, vous les mettez sur un papier absorbant pour enlever un petit peu ce gras qu'il peut y avoir en surplus. Et puis vous les mettez dans un plat qui va au four et vous allez les maintenir au four. Voilà,
au chaud.
Ouais. Comme ça, ça va laisser... Alors, le four, hein, bon, pour le moment, on a le
tian. Oui, il y a le tian dedans.
Il y a le tian. Donc, une fois que votre tian sera cuit, 10 minutes avant que votre tian finisse de cuire, vous baissez votre feu et vous mettez votre four et vous les mettez avec. Genre à 150 grammes, à 150 degrés, et ils vont finir de cuire tous les deux tranquillement. Comme ça, vous pourrez les servir bien chauds tous les deux.
Mmh.
Sachant que le tian, si, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais il faut que ça soit vraiment, vraiment très... très fin, de façon que vous ayez moins de temps possible au niveau du four. Ça vous fait une économie, ceci dit en passant. Voilà, donc, on est d'accord qu'on a pratiquement tout fini. Il nous reste les verrines de betterave. Alors ça, il n'y a rien de plus simple, les verrines de betterave. Donc on va déjà prendre les 400 grammes de betterave et puis on va les mettre en morceaux.
C'est des betteraves cuites, on est bien d'accord, hein, qu'on achète. Hein.
C'est des betteraves cuites parce que crues, ça met une heure et demie à cuire.
C'est ça. Oui.
Moi, perso, je préfère la betterave cuite moi-même, mais ça met une heure et demie, voire deux heures à cuire. Et donc, bon, en général, on les trouve facilement, les betteraves cuites.
Oui, oui.
Vous les trouvez sur les marchés, vous les trouvez en grande surface. Donc, par contre, on les coupe en petits morceaux, c'est mieux, parce que sinon vous allez un petit peu être embêté au niveau du presse-purée. Et puis on va mélanger le boursin. Alors moi j'ai mis du boursin parce qu'il y a de l'ail, des fines herbes dedans. Donc, mais vous pouvez très bien le faire avec un fromage frais, tout simplement, style ben Saint-Moré ou le petit
Philadelphia,
tout à fait. Donc ça c'est vous qui voyez. Voilà, le boursin, ça ramène un petit peu d'ail et d'herbes qui sont pas mal. On met ça dans un saladier, donc le boursin et les betteraves coupées en petits morceaux.
J'ai une petite question, est-ce qu'on prend du boursin cuisine ou est-ce qu'on prend le vrai boursin?
Non, on prend du boursin.
Le vrai boursin,
oui, okay. Oui. Alors moi, j'avoue que je ne suis pas fan du boursin cuisine, donc voilà, je ne le connais pas.
C'est vrai?
Je ne cuisine pas avec ça.
Ah, moi, je cuisine avec.
Attends,
c'est plus léger, déjà. C'est moins calorique. Et dans des pâtes, c'est très bon.
Voilà. Bon, tu fais comme tu veux. moi, dans les pâtes, je vais rajouter du pesto, tu vois.
Oui, bon, aussi.
Après, on fait comme on veut. Bon, les pâtes, moi, j'en mange pas tous les jours non plus. Voilà. Donc, je reviens à mes betteraves qu'on a mis en petits morceaux avec le boursin. Et puis, avec le presse-purée ou avec une fourchette. Ça, c'est vous qui voyez. C'est par rapport à ce que vous avez. Hein, n'allez pas acheter un presse-purée rien que pour ça. Et vous allez donc écraser tout simplement ce mélange pour qu'il soit totalement homogène. Voilà, une fois que c'est terminé, et ça va très rapidement. Alors, s'il reste des petits morceaux, bah, vous paniquez pas, c'est pas bien grave, hein, au contraire, en bouche, ça sera sympa. Vous pouvez, alors, moi j'aime bien rajouter, je vous donne encore un petit truc que je n'ai pas noté dans les ingrédients. Je prends des petits croutons d'ail, là je les achète.
Oui.
Ouh là là. Mais des petits croutons, ail et fines herbes. Et que je pile comme un tiramisu, comme si vous faisiez un tiramisu. Donc je D'accord. pile la petite biscotte à ail et fines herbes. Je mets une petite au fond de la verrine. J'en mets un tout petit peu. Je mets un petit peu de ma préparation de betterave écrasée avec du boursin. Je remets une petite couche de petites biscottes écrasées ail et fines herbes. Et puis, je remets une couche de betterave et de boursin.
En fait, tu fais un tiramisu betterave-boursin.
Ouais.
Voilà. C'est une bonne idée.
Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais il faut que ça pétille dans la bouche, moi, je trouve, et que vous ayez des différents goûts et que ça soit agréable à manger. Et puis, pour la présentation, donc, une fois que la verrine elle est bien remplie entièrement, eh bien, vous mettez un brin de persil ou une branche de ciboulette dessus, et puis vous mettez ça au frigo. Voilà. C'est tout simple. C'est facile à faire et ça prend 2 secondes et demie.
Bon,
c'est bien. Hein
ouais.
Bien. Je pense que pour vous laisser finir un petit peu ces préparations, parce que bon, le temps d'écraser un petit peu la betterave, vous allez prendre du temps. Je pense que Théo nous a choisi une belle musique comme d'habitude.
Santa Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que j'ignore, moi j'aimerais tout savoir de toi. Ce qui t'a fait mal et ce que tu ne veux pas qu'on voit. Tout ce qu'on pourrait lire, même en se noyant dans ton regard. Je veux tout savoir. Dis-moi ce qu'on t'a promis, ouais, dis-moi ce qu'on t'a fait croire. Je suis là pour ça, je préfère donner que recevoir. Pour faire partie de la mienne, j'ai besoin de connaître ton histoire. Mais non, je vais pas m'enfuir, moi je veux changer ta vie. Si t'as besoin que je le dise, je le redirai encore. C'est la vie que tu mérites, c'est pour ça que je suis ici. Pour te voir sourire, juste avant que tu t'endormes. La vida contigo, contigo, contigo. A Santa Maria, Maria, Maria. La vida contigo, contigo, contigo. A Santa Maria, Maria, Maria. La vida contigo. Pose ta tête sur mon épaule, il est temps qu'on se dise des choses. Dis-moi ce que je ne sais pas. J'essaierai de trouver les mots, te prouver que t'es mieux que les autres, faut que t'aies confiance en moi. Les cicatrices sous ta paume, moi perso je trouve ça beau, mais il est temps qu'on les soigne. Je prendrai tout sur mes épaules si un jour tout est noir. Mais non, je vais pas m'enfuir, moi je veux changer ta vie. Si t'as besoin que je le dise, je le redirai encore. C'est la vie que tu mérites, c'est pour ça que je suis ici. Pour te voir sourire juste avant que tu t'endormes. La vida contigo, 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 la Santa Maria. D'une vie sans toi, je veux pas faire les 100 pas. J'aimerais que le temps s'arrête et que tu restes près de moi. Aïe loca, je veux tout savoir, dis-moi tout ce que tu ressens, le genre de choses qu'on dit tout bas. Je veux pas d'une vie sans toi, je veux pas faire les 100 pas. J'aimerais que le temps s'arrête et que tu restes près de moi. La vida contigo, 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 la Santa Maria, Maria, Maria. La vida contigo, 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 la Santa Maria, Maria, Maria. La vida contigo, contigo.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, écoutez, il nous reste pas très longtemps avant la fin de l'émission. Nathalie, tu as peut-être quelque chose à nous dire quand même
sur les
betteraves.
Tout à fait. Alors, le terme betterave vient de la bête, B-E-T-E. C'est une plante cultivée à l'origine pour ses feuilles, dont la betterave est directement issue. Elle vient des côtes de la Méditerranée, où elle pousse toujours à l'état sauvage. Et donc, ça vient de bête et rave, qui signifie toute plante potagère cultivée pour sa racine. Donc, c'est connu depuis le début de notre ère. Hein. La betterave était utilisée par les anciens à des fins médicinales. Les premières recettes ont été publiées au IIe siècle et vers le XIVe siècle, elle devient très prisée dans la gastronomie britannique. La popularité de la betterave sucrière, quant à elle, doit beaucoup à l'intervention de Napoléon Ier à cause de la guerre avec l'Angleterre et du blocus exercé sur la France. Donc le sucre de canne ne pouvait plus parvenir des Antilles. Forcément. Donc, afin de faire face à cette pénurie, l'empereur offrit des terres à tous ceux qui cultivaient la betterave sucrière, ce qui eut pour effet d'inciter significativement sa production. Il faudra malgré tout attendre le milieu du 19e siècle pour voir la consommation de cette racine se populariser à travers toute l'Europe. C'est d'ailleurs à cette époque que l'on a mis au point une sélection de variétés à racines rouges, blanches et jaunes de qualité gustative supérieure. Alors désormais, elle est toujours cultivée en tant que légume. C'est la betterave rouge qu'on cuisine donc là ce soir. En tant que plante fourragère, nourriture pour les ruminants et pour la production du sucre. Les pays d'Europe de l'Est en ont presque fait l'emblème de leur culture gastronomique avec leur célèbre salade et le bortsch. Aujourd'hui, ce sont une poignée d'hybrides qui dominent le marché, mais les anciennes comme la crapaudine, allongée à la peau ridée et rugueuse, sont toujours produites en France. D'autres comme l'égyptienne, la jaune, la blanche et la Chioggia connaissent aussi un regain de popularité. La variété la plus souvent rencontrée est la noire ronde hâtive ou globe, dont la racine est ronde et lisse et la chair de couleur rouge sombre.
Voilà, donc vous avez vu que... Alors, il y a trois sortes de betteraves.
Ouais. Hein,
donc, la sucrière qu'on utilise...
Pour faire du sucre. Ouais. Je crois que souvent sur les routes, on voit des tas.
C'est exactement ça.
En Seine-et-Marne, il y en a encore, je crois. Ça sent très mauvais quand on passe à côté.
Mais alors, c'est pas la betterave, c'est les usines qui sentent très mauvais.
Ah D'accord, je pensais que c'était les taxes. Peut-être avec la chaleur, ça macérait et ça dégage
manière,
une odeur.
Après, on a la mélasse, hein, la betterave. Enfin, la mélasse, de toute manière, si elles sont déracinées et entreposées et pas vite mises à l'usine pour traitement, ça a une odeur infâme.
Bah, c'est ça.
Et quand vous passez pas loin des usines à betteraves sucrières, ça a des grosses odeurs hein, quand ouais. même. Hein. Donc, alors. Et puis, on a la betterave fougère hein, qu'on utilisait médicinalement donc, au niveau des médicaments et la betterave rouge qu'on connaît. Ouais. Alors après, moi, j'en cultive des betteraves rouges qui sont un peu torsadées, blanches et rouges. Elles ont un super parfum, super agréable. Ouais. Et moi, j'adore cette... Alors, ne me demandez pas le nom de la betterave, je ne la connais pas. Mais je sais qu'elle est torsadée et qu'elle est blanche et rouge. Et ça, blanche et bordeaux, et je trouve qu'elle est excellente.
Elle est moins forte peut-être en goût.
Elle est moins forte. Après, il faut bien les nettoyer avant de les laver, les brosser avant de les cuire. Ouais. Ça, c'est super important. Parce que sinon, on a ce goût de terre qui revient. Et c'est assez désagréable. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas la betterave. Parce qu'on a ce goût de terre. Donc, l'idée, c'est vraiment... alors, ou vous l'épluchez avant de la cuire. Moi, je la brosse bien. Et y a des fois, je l'épluche parce que j'ai envie de l'éplucher. Et puis, il y a des fois, je la laisse cuire comme ça. Mais surtout, bien la brosser et l'enlever de la terre qu'il y a dessus. Voilà. Quand c'est bien cultivé, bien cuisiné, je peux vous dire que c'est extraordinaire. En plus, on peut faire plein de choses. Bien, alors, il est temps de finir notre dessert, Nathalie, hein, parce que...
Oui.
Dis-moi, où est-ce qu'on en est au niveau du tian?
Alors, on avait mis 30 minutes, on est à presque 28 minutes, donc il est en fin de cuisson. Hein.
Ben, ça nous laisse largement le temps de passer à table, de manger l'entrée, et puis de finir déjà le dessert. Donc, dans une poêle, vous allez faire votre caramel blond. On est bien d'accord que c'est du blond, c'est pas un caramel marron foncé. Donc ça va aller très très vite puisqu'on va mettre 600 grammes de sucre.
60
grammes. J'ai mis quoi ?
600.
600.
C'est oui, un gros caramel.
C'est un gros caramel. Donc 60 grammes de sucre en morceaux, un filet de jus de citron et vous allez rajouter 2 cuillères à soupe d'eau. C'est tout. Vous allez laisser bouillir. Et vous allez en remuant, d'accord. Et puis, attention, ça va très, très vite parce qu'on a mis très peu d'eau. Et donc, le caramel va blondir et on ne veut pas, je vous rappelle, on ne veut pas du foncé.
Et pourquoi le sucre en morceaux?
Parce
pourquoi
que ça
pas
va...
en poudre?
Bon, tu peux faire les deux. Mais
on peut, si on n'a pas de sucre en morceaux, on peut prendre du sucre en poudre, d'accord.
C'est à partir du moment où tu as 60 grammes.
D'accord.
Voilà. Moi, le sucre en morceaux, comme du sucre cristal, j'utilise du sucre cristal. Voilà.
Oui.
Déjà parce que le sucre cristal, c'est moins cher. Et puis que
le sucre semoule, il est plus gros, c'est tout.
Oui, et puis on l'a en plus grosse quantité.
D'accord.
Moi, le sucre
mais la différence, cristal... c'est juste que les grains sont plus gros que le sucre semoule. Mais au final, ça, pour faire un caramel, ça revient au même.
Exactement. Et si j'ai besoin de sucre glace, ben, je vais le mixer dans mon robot. Et puis, comme ça, j'aurai du sucre glace.
Ouais.
Donc, j'ai pas besoin de 36 000 sucres. Voilà, le seul sucre que je vais utiliser, c'est ou le roux, ou le sucre de canne, ou la vergeoise, ou le sucre cristal. Voilà, moi dans ma cuisine, j'ai plein de pots avec différents sucres, mais c'est moi qui les ai faits à partir du sucre glace, à partir du sucre cristal. Voilà, tout simplement.
D'accord.
Donc après, c'est vous qui voyez. Bien. Donc, pendant ce temps-là, notre caramel, là, il est chaud.
Oui, il est fait, là.
Il est fait. Donc, on met du jus de citron, justement, pour éviter qu'il claque. Hein, parce que si vous mettez que le sucre et l'eau, en fin de compte, il va se transformer en caramel dur. Le jus de citron
D'accord.
va permettre à ce qui reste un petit peu mou.
Ok.
Voilà, tout simplement. Donc, là, pour le fait, on n'a plus qu'à sortir donc, du frigo nos blancs neige, notre crème anglaise. Et là, on met notre crème anglaise dans des jolis bols, dans des ramequins ou dans un gros saladier. On va y déposer les blancs en neige qui ont été pochés. On va mettre un filet de caramel par-dessus, assez rapidement, vous faites comme vous voulez. Je vous donnerai une autre astuce une autre fois parce qu'on a là, on n'a pas le temps de faire une cage de sucre. C'est extraordinaire à faire. Mais il y a une petite astuce pour éviter que le caramel s'accroche à la louche, qui est le support. Mais je vous la donnerai plus tard.
D'accord.
Parce que là, on n'a pas le temps. Et puis, je ne vais pas tout vous donner ce soir. Donc, un filet de caramel, un petit peu de d'amande effilée et votre plat, il est fait.
Ouais.
Donc, n'oubliez pas vos escalopes. Donc,
oui, vous pouvez les mettre là. Hein.
Elles sont là, on peut les mettre 10 minutes au four. On baisse le four pour le thian et les escalopes. Bah, écoutez, il est temps de mettre une jolie nappe pour déguster donc, ces plats en famille, puisque vous avez vu que le thian est un plat familial, comme la plupart des plats qu'on vous propose. Donc, il est temps de nous dire de vous souhaiter un très bon appétit. Une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure. Ça sera un spécial fête des pères, puisque...
on a fait fête des mères.
On a fait fête des mères. Il n'y a pas de raison que les fêtes des pères soient oubliées. Voilà. En attendant, avant de vous quitter, je voudrais faire juste un petit gros bisou à notre ami Théo, parce que dans 2 jours, c'est son anniversaire. Voilà, ça c'est fait. Je t'embrasse très fort et je vous embrasse tous très fort. Bonne soirée à tous.
Et moi, je ne
fais pas chialer.
Je rajouterai juste que si vous n'avez pas eu le temps de suivre la recette, le podcast sera en ligne. Vous pouvez vous connecter sur le site internet d'Infini Radio et vous avez toutes les recettes d'Anne, tous les podcasts.
Voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous embrasse.
Au revoir.
Bisous.